Je voudrais vous parler pour commencer des outils de l'émail, des choses très, très, très humbles, très modestes, n'est-ce pas? Les outils de l'émail, c'est aussi indirectement un éloge de la main. Je crois que la main qui œuvre a droit à beaucoup de respect. Elle est un outil elle-même essentiel, mais qui a besoin d'être prolongé. Et les outils de l'émail, ce sont des petites choses que je vais essayer de vous énumérer. Il y a d'abord la spatule, l'aiguille. Tous ces éléments qui sont ici autour de vous ont été réalisés depuis que je travaille, depuis 30 ans, avec une petite aiguille d'acier qui est longue comme ça et qui a un bec recourbé comme un bec d'oiseau. Et c'est par cette aiguille que tout a été dit et que j'espère, je dirai longtemps par cet outil l'essentiel de mes rêves. Alors cette petite aiguille est vraiment au centre de mon travail, elle est toujours près de moi et elle doit traduire, je dirais continuellement, tout ce qui passe à travers moi et qui vient se piquer sur l'émail, se poser sur l'émail, c'est-à-dire sur la plaque d'émail. Alors cette aiguille sert à prendre l'émail goutte à goutte, je vais vous dire tout ça plus précisément. L'outil donc, c'est le premier, celui-là, le plus important. Il est modeste, mais il est celui sans lequel on ne pourrait rien faire. Il ne s'agit pas de poser l'émail avec un pinceau, de le poser avec des moyens industriels. Il existe d'autres procédés, mais celui-là seul, pour moi, est assez sensible pour traduire les moindres vibrations, les moindres tremblements d'une personne ou d'un songe, d'une âme, je dirais. Ensuite, il y a évidemment beaucoup d'autres petits outils. Il y a les burins à ciseler. Il y a les brunissoirs en agate qui permettent de donner aux cloisons, de cloisonner à une finition tout à fait exceptionnelle. Il y a les limes, les maillets, les marteaux, enfin, toute une série de petits outils qui ne sont pas, qui sont encore une fois très obscurs, mais qui contribuent par leur. Qui contribuent vraiment à faire que l'on arrive à un jour à avoir sous les yeux une plaque achevée et qui semble n'être née que d'elle-même, comme le phénix peut-être, sans soutien, sans échafaudage. Mais je voudrais vous dire qu'il y a beaucoup de gestes obscurs que l'on ne voit pas, et qui permettent d'arriver jusqu'à l'émail achevé, l'émail que je crois dans le meilleur, l'émail bien fait de part en part. Et puis il y a aussi, les fours qui sont un des éléments les plus importants dans ce travail. Les fours, c'est un jeu de fours qui doivent recevoir les pièces, les pièces préparées. Alors, ce sont les fours électriques que l'on emploie aujourd'hui. Au Moyen-Âge, il est certain que l'on employait d'autres moyens, et en particulier des cloches d'acier, des cloches de fer, qui étaient percées de trous et que l'on immergeait dans des charbons ardents. Et il y a une description très, très savoureuse d'un moine du XIIe siècle, qui est le moine Théophile, qui a laissé un traité dont nous avons retrouvé quelques éléments d'un traité sur ces arts assez rares, comme celui de l'émaillerie, et qui racontait justement que l'on enfonçait cette cloche dans les braises ardentes et qu'il fallait un grand bâton avec une aile de bois pour ne pas se brûler, bien sûr, mais qu'il fallait attiser cette cloche qui contenait la pièce à cuire. Et de loin, et petit à petit, cette pièce prenait l'éclat, la valeur qu'elle, l'émailleur voulait lui donner. Bon, ce n'est plus du tout comme ça aujourd'hui. Vous l'imaginez, nous travaillons avec des fours extrêmement purs, je dirais, qui ne laissent pas d'impureté. Ce sont donc les moufles ou les fours interréfractaires qui montent à presque 1000 degrés, entre 850 exactement et 950 degrés. Donc ce sont des... Je n'ai pas une température extraordinaire, mais elle est suffisante pour ne pas fondre les métaux employés, car les métaux que l'on emploie en émaillerie sont le cuivre, l'or et l'argent. Il y a essentiellement trois métaux que l'on émaille. Mais ces métaux ont des températures de fusion qui sont relativement bas. C'est relativement bas, il ne faut pas dépasser 1000 degrés et encore, parce que je vais vous dire les différentes températures de fusion de ces métaux. L'argent a un point de fusion à 960 degrés. Le cuivre à 1083 degrés et l'or à 1063 degrés. Ce qui fait que vraiment on s'arrête dans le moment où la plaque peut s'affaisser dans certains cas dans le four. Il faut donc qu'elle soit retirée à temps avant vraiment de subir une température trop forte qui la perdrait complètement. Alors voilà pour les fours. La philosophie du four, je n'ai pas besoin, je crois, d'insister, c'est vraiment le centre, certainement, le centre du mystère, n'est-ce pas, de l'émaillerie, le centre. Tout se passe dans le ventre du four, dans la grotte du four, dans le Noël du four, je dirais. C'est là que dans cette forte température, une accélération des réactions chimiques, la fusion de l'émail se produit. Vraiment, là s'accomplit le miracle. Mais c'est un miracle dirigé, observé, un miracle qui est contenu dans des limites, n'est-ce pas, vraiment raisonnables. Les vêtements de l'émailleur, je suis toujours dans les approches de l'émail, les vêtements, eh bien, il faut protéger ses yeux, il faut protéger ses mains, il faut protéger son visage, son corps, sa poitrine. Alors je travaille avec un vêtement en amiante argenté, une cagoule protégée par un verre à l'or, mais pas comme un homme, les cosmonautes, exactement, c'est depuis que la NASA a conquis les espaces que nous avons ces magnifiques protections qui permettent de travailler à 10 ou 5 cm d'une plaque portée à incandescence. Car j'ajoute tout de suite une chose capitale, l'émail se cuit à four ouvert, avec contrôle véritablement de la plaque chaque instant. On referme le four, bien entendu, il n'est pas toujours ouvert. Mais ce n'est pas du tout, et je vous le dis là fortement, ce n'est pas du tout l'art de la céramique. Il ne faut pas le confondre. L'émaillerie sur métal est quelque chose vraiment de tout à fait spécifique. La pièce doit être surveillée très étroitement, et dès qu'elle atteint le point, l'éclat suffisant, l'état de chaleur qui est bon point, il faut la retirer immédiatement et la remettre si nécessaire jusqu'à ce qu'elle ait cette sorte de miroitement particulier que seul l'usage, le temps permet de connaître. Les pyromètres existent, mais je dois vous dire que cela aussi c'est une mesure, mais comme toutes les mesures, elles ne valent pas la mesure que l'on sent soi-même, n'est-ce pas, par la vue, par les sens éveillés, par mille petits signes, par le bruit peut-être du cuivre lorsqu'il atteint et qu'on entend légèrement. Enfin, tout ça, ce sont des choses qui s'apprennent. Et alors, les mesures extérieures, je ne crois pas trop, elles sont simplement des points de repère. Voilà pour les vêtements et le four. Alors, les yeux, je dis oui, j'insiste, il faut protéger ses yeux, surtout contre les infrarouges qui sont très dangereux. Et tous ceux qui pratiquent l'émail devraient le savoir, il faut faire très attention, c'est bien un danger réel à ne pas à ne pas vraiment voiler ses yeux devant un four allumé, surtout allumé jusqu'à cette température. Alors l'émail lui-même, je parle beaucoup de l'émail jusqu'ici, bien sûr je parle du corps de l'émail, je ne parle pas d'un émail réalisé comme ce que vous avez, mais je parle de la matière elle-même. L'émail est un verre blanc, une sorte de cristal, coloré dans la masse par les oxydes métalliques, de plomb, de manganèse, de cobalt, sélénium pour les rouges. C'est un verre broyé très finement, plus ou moins finement, dans des mortiers. Et j'ajoute qu'il y a parmi les outils, que j'allais oublier, les mortiers, qui ont eux aussi une grande importance, et dans lesquels on broie cet émail avec un pilon, ou des pilons, car il y a des mortiers à l'agate, des mortiers en porcelaine, et suivant la grosseur du grain que l'on veut, plutôt si l'on veut obtenir un grain très fin, on broie beaucoup plus, et on lave au fur et à mesure le limon qui se dégage de l'émail, n'est-ce pas, de sa substance. Alors, une fois que l'émail, que ce verre donc au plomb très, très pur et prêt, lorsqu'il est bien broyé, on peut l'utiliser avec cette spatule, on le dépose dans un petit godet ou dans une coupe, ou au Moyen-Âge on prenait des coquillages, ce qui est très joli, on gardait les émaux des coquilles Saint-Jacques qui étaient comme ça autour de l'émailleur, ou du moins l'émailleur, parce que souvent les émaux étaient préparés dans les ateliers des abbayes ou l'atelier monastique, bien sûr. Je poursuis. Alors, l'émail est broyé avec de l'eau très pure. C'est très important parce que toute eau impure entraîne des impuretés à la cuisson. Et ces impuretés peuvent tacher très dangereusement l'émail, la beauté des, surtout des émaux transparents, ça, qui ont une limpidité qu'il faut leur conserver jusqu'au bout. Les rouges sont très sensibles également à la moindre poussière, au moindre défaut. Alors donc, beaucoup de soins pour ces émaux, et surtout une eau de lavage très pure, qui est une eau que moi-même je filtre, en fait, qui est une eau filtrée, l'eau normale, mais filtrée. Et il y avait à Limoges, au Moyen-Âge, une eau de source que l'on utilisait pour l'émail, et qui était très très réputée, et on allait chercher cette eau à cette source pour avoir une eau vraiment tout à fait bonne à ce genre de travail. Les émousses ont beaucoup d'aspects. Ils ont beaucoup d'aspects. Je parle toujours de la poudre d'émail, je parle toujours du sable d'émail. Sable d'émail. C'est un sable, c'est une sorte de poudre de verre. Cette poudre de verre peut, suivant sa composition, donner des émaux opaques, c'est-à-dire qui ne laissent pas passer la lumière, mais qui sont vraiment sur une plaque, n'est-ce pas, qui deviennent au fond des masses, n'est-ce pas, entièrement homogènes, mais non perméables à la lumière, qui renvoient la lumière sans se laisser traverser par elle. Puis il y a les émaux opales, opalescents, encore des nuances, c'est-à-dire qui sont légèrement laiteux, n'est-ce pas, vitreux, n'est-ce pas. Et puis il y a les émaux translucides, les émaux semi-translucides, les émaux transparents, semi-translucides parce qu'ils sont colorés mais qui laissent passer la lumière à travers eux. Ce sont des émaux qui sont très semblables aux pierres précieuses, les rubis, les saphirs, de faux rubis, de faux saphirs, mais ce sont les mêmes, comment dire, ce sont des matières peut-être moins dures mais qui sont aussi belles par leur éclat que des vraies pierres précieuses. Alors, vous voyez déjà cette gamme de possibilités. Nous avons donc ces matières qui vont, à la flamme, devenir des miroirs plus ou moins transparents et qui vont recevoir ou ne pas recevoir la lumière. Voilà, maintenant je vais vous parler un tout petit peu des métaux, très vite. Les métaux, donc, je disais l'or, l'argent et le cuivre. L'or a été très employé, surtout dans le haut Moyen-Âge, les Byzantins l'ont beaucoup employé sous forme de feuilles, n'est-ce pas, de cloisons. Les mailleries cloisonnées byzantines ont été évidemment une utilisatrice de l'or très gourmande, si je peux dire. Il y a ensuite l'argent qui est aussi un métal très employé, et surtout employé au XVe siècle, et le cuivre qui a été le support de toutes les mailleries romanes, les mailleries que l'on exerçait à Limoges, à Comte, en Aquitaine, sur les bords du Rhin, en Irlande. Et cette émaillerie romane a eu surtout utilisé le cuivre pour des raisons évidemment d'économie et parce qu'aussi c'est un métal qui est très malléable, que l'on travaillait assez bien, qui ne coûtait pas des fortunes, mais qui était tout de même très recherché à cette époque et très difficile à laminer. On avait du mal à laminer le cuivre. Aujourd'hui on a des cuivres bien sûr très propres à l'emploi, qui sont écrouillis, qui ont des épaisseurs tout à fait calibrées, etc. Mais au Moyen-Âge, c'était battu à la main, n'est-ce pas, à partir du lingot, il y avait vraiment un travail manuel très intense pour arriver. Alors, ce qui explique qu'on a des émaux très épais, souvent, des émaux anciens, des émaux champs levés sont souvent des émaux qui vont de 1 à 7, 8 mm parfois d'épaisseur. Ce sont des pièces extrêmement lourdes, mais la moyenne c'est 3-4 mm d'épaisseur. Et ce que j'emploie ici, moi, d'une manière courante, c'est le cuivre de 2 mm d'épaisseur, de 2 à 3 mm. Vous avez ici des plaques de 2 à 3 mm. C'est beaucoup déjà, c'est très lourd, le cuivre est dense et c'est bien suffisant. Voilà pour les trois grands métaux que l'on émaille. Il y a une marge, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, entre le point de fusion de ce métal et celui de l'émail, qui est un petit peu plus faible, et qui fond autour, comme le verre, qui fond autour de 800-850 degrés. On a vraiment là une fusion du verre, et le miracle c'est que à cette température il y a vraiment mariage entre le métal et ce verre porté à incandescence. Il y a vraiment une rencontre là, quelque chose qui demeure au refroidissement. Mais encore faut-il que tout cela soit bien préparé